Mortimer sur la première.
La première,
le mug,
de 9h à 10h.
Et ce matin, je vous le disais, c'est un mythe qui s'invite dans le mug, le 27e tome de Blake et Mortimer, monument de la BD belge, vient de sortir. Il s'appelle Le cri du Moloch et on retrouve aux commandes Jean Dufaux et Étienne Schrader qui sont avec nous ce matin. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, petit rappel quand même, Blake et Mortimer, une saga créée par Edgar P. Jacobs en 1946, qui a été reprise après sa mort par une série d'auteurs et qui raconte les aventures du capitaine Francis Blake, directeur du contre-espionnage britannique, et du professeur Philip Mortimer, grand scientifique. Alors, vous aviez déjà publié un Blake et Mortimer ensemble il y a 7 ans, Jean Dufaux et Étienne Schrader. Alors avant d'expliquer le scénario de celui-ci, on va dire quelques mots quand même sur la répartition des rôles. Jean Dufaux, vous êtes l'auteur, et pour le dessin, Étienne Schrader, vous avez collaboré avec Christian Caillot. Alors pour s'atteler à un duo légendaire de la BD comme celui-là, ça veut dire qu'il vaut être, il vaut mieux être trois plutôt que un.
Pour le scénario, j'étais seul et ça a fonctionné. Donc, vous poserez plutôt la question à Étienne Schrader pour le dessin, car là, c'était un petit peu plus, un peu plus subtil.
Voilà, mais le scénario est lié au dessin, puisque vous, Étienne Schrader, vous êtes occupé du découpage. Et ça fait 25 ans que vous collaborez de près ou de loin à cette série. Mais ici, vous avez eu véritablement un rôle prépondérant. Comment vous l'avez vécu cette fois-ci ?
Mais vous avez tout dit, donc je n'ai plus grand-chose à ajouter. C'est vrai que pendant 25 ans, j'ai collaboré à des titres divers et même parfois dans l'anonymat complet à certains volumes. Dire que j'ai eu un rôle prépondérant dans le rôle du Moloch, ça commence vraiment bien.
C'est le matin.
Ça va, il est 9h14 en même temps.
C'est peut-être me faire trop d'honneur, mais disons que je tenais à réaliser le découpage de cet épisode par intérêt personnel d'abord, parce que je suis beaucoup plus intéressé par tout ce qui concerne la narration que par le dessin en lui-même. Et j'avais eu, et j'ai toujours l'ambition d'essayer de percer le mystère d'Edgar Jacobs dans ce qu'il a de théâtral, de dramatique, dans la façon de raconter ses histoires. Donc,
mais quel critère il faut remplir ? Comment on choisit celui qui va pouvoir reprendre Blake et Mortimer ?
Comment choisir ?
Oui, comment on postule ? Qui décide ?
On se présente ? Ce sont des rencontres qui sont orchestrées par l'éditeur, par l'ayant droit, par celui qui commande un petit peu la destinée des Blake et Mortimer. Donc moi, il y a 7 ans, j'ai travaillé avec Aubin Fréchon et Étienne. Donc Étienne, je le connaissais déjà. Nous étions frottés l'un à l'autre, et puis après l'an de Septimus, il y avait une suite, il fallait trouver une autre équipe, parce qu'Aubin Fréchon et moi-même, nous avions des idées différentes sur la façon de terminer l'histoire, et il y a eu un hasard heureux, car c'est assez compliqué, même trop compliqué pour en parler ici, et la rencontre de Christian Caillot, dessinateur qui aime la ligne claire, qui connaissait cette culture jacobsienne, a été une rencontre avec Schrader qui a pu redonner de l'énergie au projet et faire en sorte que la suite apparaisse seulement maintenant, mais 7 ans après.
Ouais. Dans Le cri du Moloch est donc en fait une suite de L'onde de Septimus qui avait été publiée en 2013. Le monde est menacé par l'arrivée d'Orpheus, qui est un engin non identifié, extraterrestre, mais grâce à Ulrich, ennemi juré de Blake et Mortimer, le monde est sauf. Mais par contre, Ulrich, il est reclus dans un asile psychiatrique alors qu'on vient de découvrir l'existence d'un second Orpheus qui est dirigé par un alien mais qui a l'apparence humaine et que les scientifiques ont baptisé Moloch. Là, je résume brièvement.
Continuez.
Dites pas la fin,
c'est le matin.
Non, mais voilà, on va pas, ça sert à rien d'aller plus loin dans on connaît l'univers de Blake et Mortimer, ce mystère, ces science-fiction. Mais dans cette série, et en particulier ici, il y a ce personnage d'Ulrich, qui n'est pas un méchant ordinaire. C'est un méchant énigmatique, qui est complexe, il a une épaisseur, c'est un profil psychologique particulier. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce personnage ?
Oh, je crois d'abord que quand j'étais môme, donc c'est quand même vers mes 10-12 ans que j'ai découvert le monde de Blake et Mortimer, le personnage d'Ulrich m'a toujours fasciné, et j'ai toujours trouvé très vite, très tôt, qu'il manquait une dimension à ce personnage-là. Et je crois qu'il y a une rencontre avec notre époque. Notre époque s'intéresse beaucoup aux méchants pour le moment. Regardez les Jokers avec Batman, regardez, nous posons des questions sur le fait de savoir comment est-ce qu'on devient un être malfaisant ou un méchant, si je puis dire. Voilà, pourquoi. Et c'était vraiment la question qui m'intéressait, c'était de rester très sincère envers cet univers de Jacobs, de trouver ma petite partition, de telle façon éviter, à mon avis, l'ennemi mortel qui est simplement la commande, faire une œuvre de commande, parce que là, je pense que c'est se fourvoyer. Et donc, je me suis dit qu'en m'attachant à ce personnage qui m'avait toujours intrigué, depuis le début, depuis la marque jaune, depuis le secret de la Grande Pyramide, je pouvais peut-être ajouter une petite pierre à l'édifice. Et c'est vrai que j'ai construit dans ma tête tout le passé d'Ulrich, hein, son nom véritable, etc., etc. Je n'ai pas pu le développer comme je voulais. Bon, ça c'est une autre histoire, trop longue à expliquer ici. Mais au moins, je pense que tous les trois, nous avons réussi à le faire bouger sur l'échiquier. Ah. C'est-à-dire que c'est un personnage qui peut se trouver sur une case blanche ou noire.
Donc là,
ils sont plus certains des choses.
Ah ouais. Voilà, vous voulez pas développer ici, mais quand même, on sent que il y a des règles à respecter et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec Black et Mortimer de la part non seulement des ayants droit, j'imagine, mais aussi de la fan base où il y a des fans purs et durs de Black et Mortimer. Comment vous faites pour pouvoir vous être créatif dans ces lignes-là?
Il y a une certaine ambiguïté. Bien sûr, au départ, nous avons une charte qui était établi, on ne peut pas trahir l'œuvre initiale, l'œuvre de Jacobs, et comme vous l'avez très bien dit, il faut que le lecteur retrouve ses personnages favoris. Mais cela ne veut pas dire que l'éditeur a créé un studio pour poursuivre les aventures de Blake et Mortimer. Il a confié à différents dessinateurs qui, tous, avaient déjà un passé dans la bande dessinée pour marqués pour qui donnent leur touche personnelle à ces personnages et ainsi éviter la lassitude. Donc ça, c'est une volonté bien nette, bien affirmée de l'éditeur que de laisser chaque auteur dans une certaine mesure, et même une mesure assez large, réinterpréter les personnages à sa façon. Il est évident que le Blake de Christian Caillaux, le Mortimer de Christian Caillaux, n'a que peu de choses à voir avec ceux d'Aubin ou même de Julliard. Ouais. Bon, il faut dire qu'à ce niveau-là, Jean Dufaux nous ouvrait grand les portes, puisque en termes de scénario, les scénarios de Jean Dufaux correspondent plus à des descriptions psychologiques
Et ça, c'est nouveau dans cette série.
Ayant travaillé avec d'autres, sur base de scénarios d'autres personnes, comme ceux de Jean Van Hamme ou bien d'Yves Sand, je peux dire que là, les deux scénarios de Jean Dufaux se démarquent totalement.
Mais on imagine qu'il y a quand même une certaine pression sur les épaules du scénariste et des dessinateurs, parce qu'une série comme celle-ci, on l'a dit, c'est l'un des blockbusters de l'automne, c'est l'un des plus gros tirages BD de l'année. Vous êtes dans le top 3 des ventes. Le premier, les livres les plus vendus aujourd'hui, il y a le Goncourt, il y a le livre de Barack Obama, et numéro 3, il y a le Cri du Moloch. Donc voilà, je veux dire, c'est une BD qui est très attendue. J'imagine quand même. Est-ce que cette pression peut avoir quelque chose d'inconfortable ?
Eh bien, en ce qui me concerne, je pense que ce sera la même chose pour Étienne. Il n'y a pas de pression. J'ai pas mal d'années.
Vous n'avez pas l'air sous pression.
Et les chiffres ne m'impressionnent pas. Les chiffres ne m'impressionnent plus depuis très très longtemps. C'est-à-dire que pour moi, un ouvrage qui se vend en 1000 exemplaires ou 500 000 exemplaires peut avoir sa valeur, peut avoir son public, etc. etc.
Évidemment, c'est un phénomène. C'est
très intéressant.
C'est un phénomène qui a davantage d'ampleur que du vivant d'Edgar Jacobs.
Absolument. Oui. Là, entre parenthèses, Jacobs n'a jamais connu ça. Je trouve d'être très joli, très symbolique qu'il soit mort dans le bois des pauvres, Jacobs. Par chez moi, d'ailleurs, dans le Brabant wallon, parce que Jacobs n'a jamais connu ce succès. Le succès vient du fait que l'éditeur s'est emparé d'un projet et en a fait ce que nous connaissons maintenant, comme au cinéma d'ailleurs. Je dirais presque que c'est le produit d'un producteur.
Ouais. Vous évoquez le cinéma, ça c'est amusant, parce qu'on peut s'étonner qu'une série avec un tel succès ces dernières années, il n'y ait jamais eu d'adaptation au cinéma ou en série. Il y a eu un projet dans les années 70 de Michel Marin, qui est quelqu'un qui travaillait dans la pub, qui avait acheté les droits, c'était une période qui courait sur 2 ans. Le projet n'a pas abouti, parce qu'il n'a pas convaincu les investisseurs, probablement parce que Blake et Mortimer n'avaient peut-être pas la même renommée à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes dans les coulisses de la fabrication de Blake et Mortimer, est-ce qu'il y a des projets parfois qui sont en cours sur des idées d'adaptation en série? Vous avez entendu passer des choses ou...
Il n'y a pas de projet en cours, mais là aussi, toutes les portes sont ouvertes. Il n'y a pas de refus, en tout cas, face à une adaptation cinématographique. Il y a eu plusieurs tentatives, dont une qui était quand même relativement intéressante. Ouais. Mais pour revenir à la pression, bon, bien sûr, je vais dire que Jean ne subit pas la pression, mais lui, il est habitué au gros tirage. Bon, en ce qui me concerne, passer de 5 ou 10 000 pour un de mes albums à 450 000 pour un autre, bon, j'avoue que la différence ne me laisse pas froid. Mais en cours de réalisation, c'est vraiment quelque chose que l'on oublie. Ah. Et même si on se force un peu à l'oublier, même si parfois on a des petits rappels des sphères, des cercles du pouvoir, attention à ce que vous faites, etc. Il faut pouvoir résister, ce n'est pas trop compliqué.
Est-ce que vous savez qui sont ces 450 000 lecteurs potentiels, plus évidemment leurs familles, ces 450 000 tirages? On imagine qu'il y a des gens qui suivent Blake et Mortimer depuis qu'ils sont tout petits. À quel public vous adressez-vous?
Au départ, je pensais, donc au départ, je vous parle d'il y a quand même des dizaines d'années, je pensais à un public de ma génération. Et puis alors, il s'est avéré que nous en sommes déjà à la 3e génération de lecteurs. Si on compte qu'une génération de lecteurs, c'est environ 7 ans. Hein ? Ce n'est pas 21 ans ou 18 ans, donc environ 7 ans. Et c'est ce qui me rend, en tout cas à moi, encore plus inexplicable le succès de cette reprise. Parce que, comme vous l'avez dit... Jacobs n'a jamais connu ça, et lorsque Dargo a racheté le studio Jacobs et est donc devenu l'ayant droit des personnages, la série était en pleine déliquescence, elle n'avait plus aucun succès, c'était vraiment, vraiment ringard. Il y a eu un pari éditorial à la base qui était risqué et qui a réussi contre, je ne vais pas dire contre toute attente, mais... voilà, on explique. Ouais. Moi, je ne l'explique pas.
C'est fou
pas,
d'ailleurs comme le temps vient éclairer la qualité d'une œuvre aussi, parce que je pense les premiers Jacobs et je pense la marque jaune sont devenus des espèces de BD ultra cultes, et pas que, enfin, pour plein d'auteurs et dessinateurs de bande dessinée.
Oui. Et encore un tout petit détail, moi qui m'a fort surpris, nous avons passé quelques heures, longues heures à dédicacer à Paris ce week-end. J'ai été surpris par le nombre de femmes et de jeunes femmes dans la file des dédicaces. À tel point qu'on leur demandait, réaction de vieux sexistes peut-être, c'est pour vous.
C'est pas pour offrir.
Mais elles répondaient, non, c'est pour moi.
Jean Dufaux, un jeune lecteur, qu'il soit homme ou femme d'ailleurs, peut-il accoster cette série par ce 27e tome? Que peut-il y trouver et en quoi est-ce que ça peut lui parler?
Oui, il ne peut pas y trouver une nostalgie, puisqu'il n'a pas connu ces années 50, ce Londres-là. Est-ce qu'il fantasme ce soir un Londres? Est-ce qu'il fantasme sur un mélange de science-fiction, d'aventure, de voyage? Il ne faut pas oublier tout de même que nous avons, nous, Européens, et particulièrement francophones, très peu de super-héros à présenter au public et à la jeunesse. Nous n'avons pas inventé Harry Potter. Nous n'avons pas inventé Conan Doyle.
On en a des biens quand même.
Il y en a très peu. Il y a peut-être Tintin, il y a peut-être un peu Maigret, mais quels sont les personnages qui font fantasmer les gens dans le monde entier, tel Batman, ou Superman? On en a peu. Alors il semble que Blake et Mortimer prennent tout doucement une place dans cet imaginaire, qu'ils sont en train de créer une fantasmatique autour d'un univers qui semble assez cohérent. Il est suffisamment cohérent de toute façon pour résister à l'interprétation de nombreux auteurs différents. Ça aussi, c'est tout de même assez remarquable dans la série. vous nous interviewez là cette année, l'année prochaine, vous aurez un autre duo à notre place qui vous racontera peut-être autre chose, et ce sera toujours un Black et Mortimer, et à mon avis, avec un peu de chance, ça se vendra toujours aussi bien. Alors, est-ce que nous avons réussi à hisser Black et Mortimer au niveau d'un Tintin, d'un Astérix, de très peu de personnages francophones qui parviennent par onde à toucher de plus en plus un public élargi, y compris, comme l'a dit Étienne, un public féminin. Car si nous y pensons, Black et Mortimer, ce n'est pas un univers très féminin, même pas du tout. Mmh. Et je pense d'ailleurs qu'il y a des choses à aller chercher de ce